Eh bien, mes amis, ce soir, nous croyons que le Seigneur veut encore parler à nos cœurs et peut-être aussi à nos consciences. C'est déjà mardi 23 juillet et nous continuons le thème de ce camp, les enseignements du Dieu vivant, dans la recherche du visage de Jésus dans chacun de ces chapitres des proverbes. Nous avons déjà 22 tableaux de Jésus, nous en aurons un 23e ce soir, Dieu voulant, et peut-être que vous en avez découvert davantage encore. Nous voulons demander au Seigneur sa bénédiction. Ô Dieu, qu'il nous est doux de pouvoir t'appeler notre Père parce que Jésus-Christ nous a révélé ton cœur et ton visage, parce qu'en lui, nous avons découvert toute ta tendresse, toute ta bonté, ta miséricorde et ton amour, mais aussi ta toute-puissance. Tu es vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui a des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui aime, des mains qui bénissent, et qui quelquefois nous frappe aussi, parce que nous en avons tellement besoin. Nos cœurs désirent être vraiment corrigés, nous désirons être éduqués par toi, et nous te remercions de ne pas nous considérer comme des bâtards qui peuvent faire ce qu'ils veulent et auxquels on ne dit jamais rien, parce qu'ils ne nous intéressent pas et qu'on les délaisse. Nous voulons te bénir parce que toi tu ne nous délaisses pas, et parce que toi tu nous suis. Tu nous poursuis même parce que tu nous aimes. Nous te remercions de ne pas nous lâcher et nous te demandons de faire ton œuvre en chacun de nos cœurs et de la faire jusqu'au bout. Nous savons ce qui s'oppose à tes desseins, c'est le monde et ses plaisirs. Et si notre cœur est partagé, oh que nous puissions comprendre ce soir que nous ne sommes pas dignes de toi, que nous ne pouvons pas nous réclamer de la croix, que nous ne pouvons pas nous réclamer de Jésus crucifié et avoir un cœur partagé. Seigneur, que tu sois vu au milieu de nous ce soir et que nos cœurs soient captifs de ton amour et que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi pour ta gloire. Amen. Mes amis, c'est donc le chapitre 23e que nous allons considérer ce soir. Il est composé de 35 versets. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, en étudiant le chapitre 22, nous avons passé du verset 16 au verset 17 sans signaler que nous entrions avec le verset 17 du chapitre 22 dans la troisième partie de ce livre des Proverbes, et qui se poursuit, cette troisième partie, jusqu'au chapitre 24, que nous considérerons demain, au verset 22e. C'est de nouveau la sagesse qui parle à son fils. Et ce chapitre 23 est la suite des versets 17 du chapitre 22e. Et ces exhortations, ces conseils font partie de ce qui est appelé les paroles des sages, qui commencent donc au verset 17e du chapitre 22. Les paroles des sages, dont Salomon, le plus sage, ne se séparait pas. Alors, entrons donc sans tarder dans l'étude de ce chapitre 22. Comme nous avons la coutume de le faire, je lirai le chapitre, puis nous reprendrons les versets, parce que par la lecture du chapitre, vous avez une idée de ce qu'il contient, puis après nous nous arrêtons sur les versets. Alors, cherchez vous-même, en entendant la lecture ou en la suivant des yeux, cherchez vous-même à appliquer les quelques règles que nous vous avons
proposée. Je lirai dans la version seconde et je commenterai dans la version en français courant pour que vous puissiez voir les nuances et peut-être qu'avec le français courant, certaines obscurités qui se trouvent dans la seconde disparaîtront. Et vous serez peut-être aussi encouragé, malgré toutes les critiques de certains milieux concernant le français courant, à avoir aussi cette Bible et à la consulter, parce que l'essentiel pour nous, c'est que vous compreniez. Comprenez-vous ? C'est que vous compreniez le sens de ces paroles. Et nous pouvons dire, en tout cas, quant à ce chapitre 23, que le français courant est fidèle. Du reste, nous connaissons personnellement, et nous avons comme ami, celui qui a dirigé toute cette entreprise du français courant, c'est le pasteur Margot de Cis, et tout ce qu'il demande, lui, c'est quand nous trouvons quelque chose qui n'est pas correct, qu'on le lui signale pour qu'on puisse le corriger dans une nouvelle édition. Mais c'est un effort qui est fait, le français courant, pour rendre la lecture de la Bible accessible à ceux qui n'ont peut-être pas une très grande culture et qui n'ont pas l'habitude de certains mots. Il y a une autre version qui est en train de s'élaborer, qu'on appelle le français fondamental, où c'est encore plus simple que le français courant. Et cette version du français fondamental sera spécialement employée en Afrique, quand il faut commencer, n'est-ce pas, de faire lire la Bible à des personnes qui n'ont pas eu les possibilités qui sont celles de nos pays. Nous disons donc dans la version seconde, si tu es à table avec un grand, qui c'est un grand? Un type long? Non. Un homme avec un titre, hein, un homme important. Hein. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Qu'est-ce qu'il y a devant toi quand on est à table? La nourriture. Hein. Alors, suivant à quelle table vous êtes, si vous êtes avec un grand de ce camp, faites attention à ce qui est devant vous. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. C'est pas difficile à comprendre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Les richesses ne durent pas. Il suffit d'une dévaluation et d'autres choses encore pour que tout disparaisse, comme l'aigle vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. On dirait en Orient de celui qui a le mauvais œil. Et ne convoite pas ses friandises, car il est telles que sont les pensées de son âme. Est-ce que vous êtes telles que sont les pensées de votre âme? J'espère bien que non. Parce que quelquefois, les pensées de notre âme, elles ne sont pas très belles. Et heureusement qu'on peut s'en juger, pour que nous ne soyons pas telles que ce que nous avons pensé. Parce que des fois, nous avons pensé des drôles de choses. Et heureusement que nous ne sommes pas telles que ce que nous avons pensé. Mais il y en a qui sont telles que les pensées mauvaises de leur âme, parce qu'ils ne se sont pas jugés. Je dis ça seulement en passant. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Essayez de comprendre. Et après, je dirai dans français courant. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins.
car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrit. Et l'assoupissement fait porter des haillons. L'assoupissement, ça représente qui? La paresse, le paresseux. Hein? Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Il y a toute une série de questions. Pour qui les ah, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les pleurs, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, qu'est-ce que c'est les yeux rouges, albinos? Pour qui les yeux rouges? Les gens qui ont pleuré, les gens qui doivent pleurer. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui se dit perle dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Qu'est-ce que ça représente, ça? L'ivresse, hein? On va des quatre côtés du chemin. On est comme au sommet d'un mât, quand on marche. La démarche d'un homme ivre. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Quoi? Je m'en vais éteindre parce qu'à nouveau c'est des gouttes qui viennent, hein? Alors, mes amis, est-ce que vous trouvez compliqué ce chapitre? Je commence en prenant le français courant. Quand tu es assis à la table d'un homme important, comme ça, il n'y a pas de difficulté, hein, parce que si on dit un homme grand ou un grand homme, on pourrait se tromper. Quand tu es assis à la table d'un homme important, considère bien
tu as devant toi, c'est pas simplement les plats, n'est-ce pas, mais considère les personnes qui sont devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Il y en a qui te regardent. Tu es invité, mais on t'a invité pour te connaître. On t'a invité pour t'observer. Alors, pensez toujours, quand vous êtes invité, très honoré d'être invité chez cette personne, on va vous regarder. On va vous observer pour voir si vous avez de bonnes manières, pour voir un peu qui vous êtes, si vous êtes un éduqué ou un mal éduqué. Alors, si vous vous connaissez être glouton, attention, réfrène ton appétit. Ne convoite pas ces bons plats. On te les offre, peut-être, mais dans de mauvaises intentions. Ainsi, c'était pour tuer une indigestion. On ne sait pas. On fait de drôles d'expériences quand on voyage. Ne te fatigue pas à courir après la richesse. Ça, nous passons à un autre sujet. Cesse même d'y penser. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose de mieux que l'argent. Vous ne pourriez pas vous fatiguer à quelque chose de mieux qu'à acquérir encore davantage de biens. Et s'il n'y a que cela, alors vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes disciple du Seigneur, mais au fond, vous êtes disciple de qui? De Mammon. On ne peut pas servir Dieu et l'argent et Mammon. Cesse d'y penser. Parce que vous savez, c'est une racine de toutes sortes de mots, dit l'apôtre Paul, que l'amour de l'argent dans l'épître à Timothée. Puis il y a autre chose. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas votre argent si il demeure sous vos yeux. Il y a des gens qui me disent au contraire que il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Voilà la version français courant. Verset suivant. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas les bons plats qu'il offre. Vous savez que cet homme qui vous invite, il est vraiment mal intentionné. Mais il vous offre de bons plats. Alors on y va quand même parce que on pense que c'est intéressant. Car il n'est pas ce qu'il paraît. Il n'est pas ce qu'il paraît. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Vous êtes piégé. Par suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Si toi, tu es tombé dans ce penchant parce que tu es invité chez cet homme que tu sais pourtant mal intentionné, tu as des paroles flatteuses parce que tu penses que tu peux tirer profit de cette invitation, c'est faux. Que le Seigneur nous délivre de cette recherche de relations. On veut avoir des relations dans le monde. C'est peut-être très intéressant. Si j'invite là, il faut que j'y sois, parce que ça peut me donner des tuyaux. C'est très dangereux, cela. Alors, on est invité, on a des paroles flatteuses, et puis, au fond, on est piégé. Puis, vous savez, c'est très simple. Je me souviens de mes amis. On a beaucoup travaillé ensemble autrefois dans les camps universitaires en France. Puis, elle a été demandée en mariage, enfin, par un jeune homme d'une famille noble de Suisse. Et elle me racontait que ce jeune homme, évidemment, devait la présenter à ses parents. Et comme elle était roturière, elle n'avait pas de sang bleu, elle a été invitée, mais elle m'a raconté que c'était quelque chose d'épouvantable. Parce qu'elle était invitée dans une grande maison, et puis elle sentait que les yeux de toute la famille s'étaient concertés sauf peut-être son fiancé, enfin son fiancé, celui qui pourrait être son fiancé, pour la peser, pour voir ce qu'elle disait, si elle était intelligente, si elle mangeait bien, si elle avait de bonnes manières. Elle m'a dit que c'était la plus vilaine, la plus mauvaise journée de sa vie. C'était pourtant des gens très chrétiens et dirigeant toute une œuvre spirituelle. Mais voilà, elle était invitée, il fallait qu'elle passe l'examen. C'était pas drôle. Alors, quand vous êtes invité, hein, ça vous honore, mais sachez vous tenir. Cette invitation, c'est peut-être pour vous une épreuve. C'était pour vous une épreuve. Alors, les proverbes, c'est ça que je trouve merveilleux. Les proverbes nous donnent des indications. Les proverbes nous avertissent de ce qui peut se passer. Verset 9. N'essaye pas de te faire écouter d'un sot. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Il y a des personnes avec lesquelles il vaut mieux cesser de discuter ou de discourir, parce que ça ne sert à rien. Jésus dit à un moment donné à ses disciples au sujet de certaines relations, laissez-les. Vous perdez absolument votre temps. Et ce qui est pire, c'est que tout ce que vous leur dites, ils vont encore s'en servir pour calomnier ou pour déshonorer le Seigneur. Il faut savoir se taire à certains moments et devant certaines personnes. Il ne faut pas vouloir dire, oh ben, je veux leur parler absolument. Il faut du discernement. Il y a des lieux et des moments où on ferait mieux de se taire que de vouloir absolument évangéliser et d'une façon incongrue. Ça ne sert à rien. N'essaie pas de te faire écouter d'un sot. Il ne reconnaîtra pas la valeur de ses paroles. Mais il se moquera si on augmente la moquerie. Alors, il faut savoir à qui nous parlons. Et puis, quand nous voulons parler à quelqu'un, il faut d'abord prier. Seigneur, est-ce que tu veux que je parle à cette personne? Est-ce que c'est ta pensée? Alors, si tu veux que je parle, moi, je ne suis pas capable. Mais donne-moi la parole. Délie ma langue. Mets la parole sur ma langue. Et alors, ce que vous avez lu dans le chapitre précédent se réalisera. La parole vous sera communiquée par le Saint-Esprit. Et comme le Seigneur l'a dit aussi, il ne faut pas jeter ses perles devant les pourceaux. Verset 10. Alors, il semble là que c'est un devoir que tout le monde devrait comprendre. Ne déplace pas les bornes posées autrefois en cherchant à t'emparer du terrain des orphelins. En effet, ils ont un défenseur puissant. Dans second, il est dit, leur vengeur est fort. Mais là, c'est peut-être plus clair. C'est quand même toujours la même pensée. Ils ont un défenseur puissant et ce défenseur et nommé Dieu lui-même soutiendra leur cause contre toi. Alors là c'est clair. Hein? Qui est le défenseur puissant de la veuve et de l'orphelin? C'est Dieu lui-même. Tu auras affaire avec Dieu. Hein? Dieu, dans sa demeure sainte, lisons nos psaumes 68, est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. C'est le premier écrit que j'ai fait quand j'étais très jeune, un message de Dieu aux veuves, et j'avais constaté qu'il y avait au fond plus de 70 passages qui parlaient des veuves dans l'Écriture. Le sujet de la veuve est traité d'une façon extraordinaire dans les Écritures. Dieu est le défenseur de la veuve et aussi le père des orphelins. Il vous aime, et si vous êtes orphelin, il prendra soin de vous. Vous pouvez compter sur les promesses de Dieu. Et ceux qui vous touchent auront affaire avec le Seigneur. La veuve trouve son refuge dans le Seigneur. Nous en sommes à quel verset? verset 12. Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux connaissances qu'on t'enseigne. Parce que vous pouvez aussi fermer votre esprit à l'éducation que vous recevez. Alors vous n'êtes pas éduqué. Et puis, vous pouvez aussi fermer vos oreilles aux connaissances qu'on vous enseigne. Alors vous restez, malgré tous les enseignements qu'on vous donne, vous restez quoi ? Un ignorant. Et ça ne vous aidera pas dans la vie. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. On pourrait dire que là, dans ces proverbes, c'est l'éloge de la fessée. Il y a un type qui a écrit un livre, l'éloge de la fessée. Cela pourra, au contraire, le préserver d'erreurs mortelles. Et voyez-vous, quand l'enfant est petit, comment peut-il comprendre le mal qui se trouve dans le péché? Ce n'est pas par un long discours, il ne peut pas comprendre. C'est par la souffrance. Comme Dieu aussi, par la souffrance, nous amène à un redressement. Eh bien, c'est par cette seule souffrance qui est donnée à l'enfant que l'on corrige, mais que l'on corrige avec mesure, que l'enfant peut commencer à comprendre ce qui est mal, ce qui est mauvais dans le péché. Vous pouvez dans ça lui faire un discours, il ne comprend pas. Mais ce qu'il comprend, c'est qu'il a eu mal. Et parce qu'il a eu mal, il y a des choses qu'il ne refera pas. Jusqu'à ce qu'il ait assez de connaissances pour qu'on puisse l'instruire davantage. Alors, si la correction est donnée dans, je parle là des enfants en bas âge, tant que l'enfant est petit en bas âge, eh bien, la correction, elle est en tout cas biblique. Vous pouvez avoir d'autres idées. Ça, je n'illusionne pas du tout sur ce qui peut se passer dans vos pensées, dans vos cœurs. Je sais ce qu'on enseigne dans les écoles, et je sais qu'il y a des parents qui trouveraient criminel qu'on touche leur enfant. D'abord, je voudrais dire, parce qu'on m'a raconté quelque chose d'assez épouvantable, dans un certain lieu, enfin je ne sais pas si c'est ici au Québec ou dans un coin du Québec, un pasteur justement évangélique a la prétention de dire que c'est lui qui doit corriger tous les enfants de sa paroisse, tous les enfants des paroissiens. C'est faux. Hein. Ce sont les parents qui ont cette tâche, c'est pas le pasteur. Croyez-le bien, renvoyez-le à Rome, le pasteur. Parce qu'il veut faire le pape, ou le grand-père Fouettard, eh bien, destituez-le de son poste de pasteur dans l'église. Un berger n'est pas fait pour battre les brebis, mais pour les soigner. Alors, si c'est ça un pasteur, et encore évangélique, eh bien, prions pour qu'il se convertisse. Ce sont les parents qui touchent leurs enfants. Ils doivent être touchés, parce que je ne vous prêche pas de battre vos enfants, ce n'est pas ça ceci. Mais il y a un équilibre à tenir. Et la discipline doit être faite par les parents. Verset 15. Mon fils, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Vous rendez compte, le bonheur d'un père quand il voit ses enfants marcher dans la sagesse. Et qu'est-ce que c'est marcher dans la sagesse? C'est marcher dans le Seigneur. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. Voilà qu'on a un enfant qui est menteur. Et on s'en rend compte. C'est notre fils. Il a la tendance au mensonge. Alors, il faut déraciner ce mensonge. Il faut l'éduquer. Puis voilà, résultat de cette discipline, un jour, vous voyez que votre fils en a cessé complètement avec le mensonge et qu'il vous dit la vérité. Quelle joie. Pour un père qui voit son enfant parler avec droiture.
avec droiture. Il peut se fier à ce que son enfant lui dit, au rapport qu'il fait. Même il n'y a plus d'exagération dans ses propos. Et le père est heureux. Verset 17. N'ayez pas envie d'imiter les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu pourras te réjouir de l'avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. C'est vrai. Il y a un avenir pour toi, mais sinon, eh bien, ton avenir, il est déjà derrière toi. Si tu marches dans ses pensées, il y a un avenir pour toi. On peut te promettre le bonheur et ton espérance ne sera pas déçue. Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras un homme sensé. Tu iras droit ton chemin. Mais pour cela, et ça, je souligne spécialement pour les jeunes, ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de viande. Ils font donc les excès de table. Et pour eux, leur ventre, c'est leur Dieu. Hein? Car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère à force d'indolence. Qu'est-ce que c'est l'indolence? C'est la paresse. Hein? Ils n'auront plus que des haillons à se mettre. Verset 22. Écoute ton père. Si vous avez un père, si vous avez encore un père, mais ou si vous avez eu un père, souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Il vous a laissé quand même des exemples. Ils peuvent nous avoir été repris, mais se souvenir de ce que disait un père, ça nous marque pour tous. Alors on s'en souvient. Et même si on ne les a plus, ses parents, eh bien, leur enseignement demeure. Et nous chérissons leur enseignement comme aussi leur exemple. Écoute ton père, car tu lui dois la vie et ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. Je me souviens toujours, c'était l'année où on faisait notre premier camp de jeunesse dans le canton de Fribourg en Suisse. Et avec l'ami qui travaillait avec moi dans ces camps, on a eu à cœur, on avait, je pense, une centaine de jeunes. Ce n'était pas encore des camps mixtes, parce que de ce temps-là, on était très sévère. Il n'y avait pas de camps mixtes. C'est le camp des garçons, puis une autre semaine, le camp des filles. Mais on enseignait les garçons à part, les filles à part. Pas de camps mixtes. Ça est venu plus tard, les camps mixtes. Je me souviens toujours que mon ami avait raconté, au fond, sur ce texte, quelque chose qui était assez bouleversant. Il avait une mère qui avait blanchi. Lui était encore dépendant de ses parents. Mais un jour, il a vu sa mère, en ville, dans la ville de Lausanne, portant deux gros sacs. Comme il était avec des camarades, le Seigneur lui disait, va aider sa mère. Mais il a eu honte de sa mère. Et à cause de ses camarades, il ne voulait pas qu'on sache que c'était sa mère, cette femme qui portait ses colis. Et le fils était là. Et il aurait pu aider sa mère. Il a eu honte de sa mère. Et voyez-vous, quand tout à coup, le Seigneur lui a parlé par la parole, eh bien, il s'est humilié de cette chose. Et non seulement il s'est humilié, mais il a trouvé bon de confesser devant des jeunes, des plus jeunes, ce qu'il avait fait et la souffrance que ça lui avait procuré. J'ai eu honte de celle qui m'a donné le jour. J'ai eu honte de ma mère. Et il y avait des larmes sur son visage. Un ami, oui. Qui est encore dans le dédié par la grâce. Ça peut nous arriver à tous d'avoir de ces moments
Est-ce que tu as honte de ton mari? Est-ce que tu as honte de ta femme? Est-ce que tu as honte de ton père? Est-ce que tu as honte de ta mère? Verset 23, vous voyez comme c'est important la droiture. Apprends à être véridique. Donc, c'est un apprentissage. Je me rends compte, peut-être que j'ai des tendances à mentir. Est-ce que je dois dire, moi j'ai cette tendance-là, je serai un menteur toute ma vie? Non. Ayant dépouillé le mensonge, dit l'Écriture, les épîtres de Paul, on dépouille le mensonge, parlant la vérité chacun à son prochain, même si la vérité doit nous coûter. Apprends à être véridique. On peut tout apprendre. Apprends à être véridique. Réfléchis, discipliné et intelligent. Voilà quelque chose de très clair. Hein? Vous pouvez souligner ce passage. Apprends à être véridique, réfléchis, discipliné et intelligent. Lorsque tu as acquis ces qualités, ne les gaspille pas. Là, vous avez acquiert la vérité dans l'autre version hein, et ne l'avant pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ça revient au même, c'est la même chose. Mais ces choses que nous devons acquérir, que nous devons apprendre, est-ce qu'on les achète à prix d'argent? Est-ce que c'est avec de l'argent qu'on acquiert cela? Non. Puisqu'il nous a dit que c'est donné. Alors c'est sans argent et sans prix. Est-ce que vous vous souvenez d'autres choses que l'on peut acquérir sans argent et sans prix et qui sont des trésors? Le don de Dieu, oui. Et dans l'église de Laodicée, ce qui manquait à ses croyants, qu'est-ce qu'ils devaient acheter? De l'or passé au feu. Et c'était aussi gratuit. Dans le Seigneur, on peut l'avoir. Des vêtements blancs pour que leur nudité ne paraisse pas, et plus fort encore, un collier, un remède pour moindre leurs yeux, pour qu'ils voient. Hein? Je te conseille d'acheter de moi. Lisons-nous dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Tu te crois vêtu, mais tu es nu. Tu te crois capable de voir, mais tu es aveugle. Tu ne connais pas que tu es aveugle, que tu es nu et que tu es pauvre. Tu te crois riche. Et moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié, de l'or passé au feu. Et tout cela, c'est gratuit. Vous avez tout cela dans le Seigneur. Mais maintenant, dans Ésaïe 50, « Oh, vous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. » Le vin, c'est le lait des vieillards, et le lait, c'est la nourriture des enfants. Et il y a pour tous. Et il y a une nourriture, il y a un breuvage pour notre situation, pour notre état. Et ça, c'est sans argent et sans prix. Et je dirais encore que l'huile que les vierges devaient avoir, c'est aussi gratuit, n'est-ce pas? Allez acheter vers ceux qui en vendent cette huile du chapitre 25 de Matthieu, et qui est le symbole du Saint-Esprit. Alors, on va au verset 24. Le plus grand bonheur d'un père, qu'est-ce que c'est? Est d'avoir donné la vie à un homme honnête et avisé. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer un petit peu les nuances que vous trouvez dans les versions. Et peut-être que cela peut vous aider. Verset 25. Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde. C'est le plus beau des cadeaux. Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde. Vous savez, il n'y a rien de plus doux qu'un fils qui peut s'entretenir encore avec son père lorsque son père est âgé. Quelle douceur, quel bonheur de sentir qu'on est des amis. Nous sommes des amis. Que mon meilleur ami c'était mon père, et qu'il pouvait dire que son fils était son ami. Voilà les relations qu'il doit avoir entre parents et enfants, s'il y a la crainte de Dieu. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans nos foyers, dans nos familles. Verset 26. Mon fils, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. Alors là, il y a certainement une lacune dans cette version. Et nous préférons de beaucoup le texte qui dit, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais bien sûr, c'est fais-moi confiance, parce que je ne donnerai pas mon cœur si je ne lui fais pas confiance. Mais pour nous, peut-être que c'est plus fort. Hein? Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le Seigneur qui nous parle. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à mes voix. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je suis ému parce que je me souviens qu'en 1950, dans le premier dimanche où nous avions célébré la Sainte Cène dans le refuge, cette maison que nous avions fondée à Nice et qui subsiste, j'avais évangélisé depuis le mois de septembre dans la ville de Nice. Il y avait eu des conversions, des gens qui ne se rattachaient à aucune église. Et j'ai compris que je vais les rassembler. Et une assemblée, par la grâce de Dieu, a été fondée. J'ai cherché à instruire ces personnes, et puis à ce que mon ministère à moi se supprime de plus en plus, pour que d'autres, que ceux qui avaient été convertis, qui s'étaient donnés au Seigneur, grandissent et puissent se développer dans la liberté de l'esprit, et que les dons se manifestent. Alors, ce dimanche, qui était un dimanche de décembre, nous avons célébré pour la première fois la Sainte Cène dans cette communauté qui se crée. Et exactement au mois de janvier, on a eu des baptêmes. Les baptêmes de ceux qui s'étaient convertis. Et je vois toujours ce jeune homme, il est imprimeur maintenant, qui avait 15 ans et demi, et qui avait demandé de passer par les eaux du baptême. J'avais vu vraiment l'œuvre de Dieu en lui, et je me sentais libre de le baptiser. Et dans cette réunion, il avait amené un de ses camarades d'école, de lycée, qui était le fils d'un des croupiers du casino de Nice. Et ce jeune homme n'avait jamais été dans une salle d'évangélisation. Et j'ai parlé, à l'occasion de ce baptême, de ce jeune homme sur ce texte. Mon fils, donne-moi ton cœur. La salle était pleine, mais tous des gens nouveaux, d'origine peut-être catholique ou alors athée, communiste, même. Mais le Seigneur avait employé ce jeune qui était baptisé pour amener plusieurs personnes, inconverties. J'ai parlé sur mon fils, donne-moi ton cœur. Il y a eu le baptême, qui est notre témoignage. Et la demande à Dieu d'une bonne conscience, nous demandons à Dieu qu'il nous donne réellement une conscience pure et nous confessons que à notre vie passée, nous avons renoncé, notre vie personnelle, notre vie où nous voulions nous conduire nous-mêmes, on y renonce parce qu'on a accepté la vie de Jésus qui nous conduira et qui nous dirigera. C'est donc le baptême, notre identification au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et on confesse cela d'une façon publique. Et ce jeune homme avait dit pourquoi ce qu'avait été sa vie avant, et il y avait renoncé parce qu'il voulait maintenant vivre de cette vie de son sauveur, de la vie de Jésus. Et il voulait lui donner entièrement son cœur. Et moi, forcément, j'avais développé ce sujet que je ne ferai pas ce soir. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je vous ai dit que sur chaque verset des Proverbes, on pourrait faire des réunions de plusieurs heures. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors cette journée de dimanche s'est terminée, et le lundi, à ma stupéfaction, je vois monter au refuge, donc dans ma maison, là-haut, à Nice, un jeune homme. C'était le camarade de celui qui avait été baptisé. S'il arrive dans notre grand jardin, là au refuge, il me dit, vous savez, je suis le camarade de Walter, et j'ai rencontré Jésus-Christ sur le pont Barla à Nice. Le pont Barla, c'est un pont de Nice. C'est une rue de Nice, c'est un pont sur la rivière, et qui se jette dans la mer. J'ai rencontré Jésus-Christ sur le pont Barla. On est un petit peu saisi, hein. On prêche l'évangile, mais voilà que quelqu'un vient nous dire qu'il a rencontré Jésus-Christ. Alors je le regarde et je lui dis, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, j'étais au lycée ce matin, j'ai pu penser à votre prédication hier, mais j'étais au lycée ce matin et quand je suis sorti et que j'allais sur le pont pour rentrer chez mes parents, c'était comme une flèche. J'ai entendu, mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai donné. Je me dis, mais c'est bizarre ce garçon. Vous voyez comment nous sommes, nous les prédicateurs. Enfin, on croit à l'évangile, mais quand on voit cette puissance se manifester, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit? Alors j'ai dit, tu veux monter avec moi dans mon bureau, dans ma tour, en haut? Il dit, oui. Et j'ai dit, si tu lui as donné ton cœur, peut-être que tu pourrais lui dire quelque chose. On s'est mis à genoux. Il avait besoin de prier, il a prié. Je n'ai pas dit, tu vas répéter des trucs après moi, hein, pour lui apprendre à prier. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui opère dans une vie, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à prier, de lui faire répéter comme on fait aux petits-enfants. C'est une prière qui jaillit de son cœur. Il a remercié le Seigneur. Eh bien, ce jeune homme, fils du croupier d'un casino de Nice, vous savez, c'est un croupier, hein, celui qui ramène tous les jetons. Ce jeune homme maintenant, c'est mon gendre. Et c'est lui qui continue l'œuvre et qui a épousé une de mes filles. Voilà ce que le Seigneur fait. Et qu'est-ce qui s'est produit encore? Bien, le père de cet homme, de ce jeune homme, qui voulait me tuer parce que, soi-disant, j'avais dérouté son fils, il est converti, il est au Seigneur. Il m'embrasse comme du bon pain quand je m'en vais à Nice. La mère est convertie, la sœur est convertie. Voilà ce que le Seigneur fait par le témoignage de ce jeune homme auquel on avait enlevé le Nouveau Testament, on lui avait enlevé la Bible parce qu'on lui avait interdit de venir au refuge. Vous savez, c'était pas très drôle. On m'avait fait des menaces même. Et alors un jour, bien voilà, le Seigneur est tellement bon. Il a permis que ce jeune homme ait une appendicite. Bon, il fallait l'opérer. Alors j'ai appris cela. Puis je me suis dit, je vais quand même aller le voir à la clinique. Puis je suis allé. Puis il y avait le père qui était là. Et il ne me connaissait pas. Et évidemment, il n'a pas osé me gifler. Mais j'étais là. C'était 2h de l'après-midi, un peu avant 2h de l'après-midi à la clinique. Puis je me suis présenté. J'ai salué son fils. Il y avait la mère aussi. Il me regardait comme si j'étais une bête sauvage. Puis j'ai dit à ce monsieur, vous allez travailler cet après-midi? Oui, il dit, je dois être là à 2h. Moi, j'avais une auto. J'ai dit, mais monsieur, je vais vous conduire. Hein, j'ai conduit cet homme au casino. C'est comme ça que ça a commencé. Tout à coup, parce qu'on ne se connaît pas. On n'avait pas d'idée les uns sur les autres. Hein. On ne se connaît pas. Pour s'aimer, il faut se connaître. Et puis, pour se connaître, il faut aller vers l'autre. Il faut faire le premier pas. Il ne faut pas avoir peur. Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous voyons l'œuvre se faire. Voyez-vous, on n'a pas besoin de vouloir faire nous-mêmes, mais apporter la parole de Dieu, apporter-la avec conviction, et cette parole ne retournera pas à lui sans produire son effet. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors après, quand il a eu la liberté de pouvoir venir aux réunions, ces jeunes, j'ai essayé de les former et de leur donner aussi la possibilité d'enseigner, de prêcher. Leur première prédication, je me souviens toujours, c'était à Toulon, alors la ville, un port de France. Ils avaient été demandés, toute notre équipe de jeunes était demandée pour aller à Toulon. Et je leur ai dit, moi je ne vous accompagnerai pas, mais donc on vous demande d'apporter la parole. Et moi, je vous conseille de prêcher sur le texte de votre conversion. Chacun. Alors, un avait ce « Mon fils, donne-moi ton cœur ». un autre avait un message sur toi six mois, parce que c'était cette réunion, toi six mois, et qu'il avait touché, les faire parler sur quelque chose qu'ils ont vécu, et non pas leur faire faire un discours sur un texte quelconque de la parole qu'ils n'ont pas réalisé. Et c'est comme cela que leur prédication sera sentie, sera vraie. C'est quelque chose qu'ils ont réalisé, qu'ils ont connu. Et puis, on les prend avec nous pour faire des visites à des personnes malades. Et puis, c'est comme ça qu'ils apprennent aussi comment faire des visites. C'est ainsi que l'apôtre Paul et d'autres ont fait en prenant avec eux des jeunes. Et je crois que ça vaut aussi une école biblique, ce n'est pas... c'était très utile, les écoles bibliques, mais de travailler avec un frère à ses côtés, eh bien, c'est une bonne école aussi. Et le Seigneur bénit. Voilà, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais mon fils, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. Sache bien que la prostituée et la femme d'autrui sont aussi dangereuses qu'une fosse profonde qu'un puits étroit. C'est pas beau tomber dans une fosse profonde, hein. Mais c'est Michel qui sait presque ce que c'est, hein, tomber là, dans un trou profond. Eh bien, le Seigneur t'a gardé et nous le remercions. Mais attention, comme les brigands, alors il met en garde donc contre ces mauvaises femmes. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont une autre vertu. Mais certaines sont comme des brigands, elles se mettent aux aguets et on ne compte plus les hommes auxquels qu'elles ont rendu infidèles. Nous avons dit hier que les hommes avaient la tendance à l'infidélité et quelquefois les femmes ne les aident pas à être fidèles. Donc, une mise en garde est contre ces femmes. Puis, un dernier portrait, mais qui n'est plus le portrait du Seigneur, mais le portrait de l'ivrogne. Verset 29. Qui vit dans la misère et les regrets, point d'interrogation, qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt, c'est les questions que nous avons lues tout à l'heure, d'une autre façon, qui reçoit des coups sans raison, qui a la vue trouble, c'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaye sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coulera agréablement dans ton gosier. Mais finalement, tu auras l'impression d'avoir été mordu par un serpent, empoisonné par un reptile venimeux. C'est la suite. Tes yeux auront des visions. Attention alors. Ton esprit et tes paroles deviendront confus. Je ne vous demande pas d'essayer, mais c'est absolument vrai. Là. Puis alors, faites encore très attention, justement quand on est invité chez des gens. Je me rappellerai toujours, c'était dans une ville de Suisse, on m'avait demandé de faire une conférence aux infirmières d'un grand hôpital de Suisse. Parce que ce sont les infirmières, on disait, qui sont plus près des malades que les pasteurs ou que les prêtres. Alors, on m'avait demandé, la direction de l'hôpital, de faire une conférence sur la manière dont les infirmières devaient parler aux malades et particulièrement aux mourants. Alors, j'avais fait cette conférence. Puis, il y avait plusieurs personnes dehors de l'hôpital et on m'avait invité à coucher chez des gens très bien, Josanne, mais qui étaient assez gays. Pas dans le mauvais sens, à gay. Hein, alors, ils avaient décidé, lui et sa femme, parce qu'ils me connaissaient depuis un certain temps, de me jouer un tour. Alors, moi, je m'étais donné en plein à ces infirmières, à tout ce monde. Alors, on était bien installés, confortablement, avant que j'aille dans ma chambre. Et puis, ils m'ont dit, vous avez besoin d'être un peu restauré, etc. Parce que ce temps-là, je ne mangeais pas. Le souper avant les conférences, je ne mangeais jamais. Alors, ils m'ont offert quelque chose à boire. Je n'ai pas réalisé qu'au fond, c'était quand même de l'alcool. Non, c'était rien, il n'y a rien là-dedans. Mais bon, on parlait, puis moi, je vivais sans me rendre compte que, au fond, ça pouvait me gêner. Et puis eux, ils se faisaient un malin plaisir de rincer la petite goutte qui restait au fond du verre. Hein. Encore une petite goutte pour rincer la petite goutte. Et puis, voilà. Alors, vous comprenez, d'un coup, ben, on s'aperçoit, tiens, ça facilite peut-être la discussion. Mais enfin, j'ai pu prier quand même, j'avais encore mes esprits. Mais quand je me suis levé, j'ai tout à coup réalisé ce qu'il avait fait. Alors, j'ai fixé le point là au fond du couloir, parce qu'il y avait un très long couloir que j'avais traversé. Et eux, ils étaient debout qui regardaient s'ils marchaient droit. Hein? S'ils n'avaient pas cette démarche flottante au sommet d'un mât. Alors, c'était une leçon. Hein? Fais attention à ce qu'on donne dans ton verre. Hein? C'est tout ça dans les proverbes. Vous voyez que c'est pratique. Mais je voudrais justement vous montrer que c'est du vrai de vrai, ça. Vous pouvez piéger. Alors, j'ai pointé la serrure de la porte où je devais entrer, j'ai fixé, j'ai marché droit, comme ça, hein. C'est un homme comme un autre, vous savez. Si je me mettais à boire, qu'est-ce qui arriverait? Oh, mais non, mais moi, c'est spirituel. Je veux boire le tonneau, il n'arrivera rien. Tout Seigneur. Ne faites pas les imbéciles. Ne soyons pas des insensés. Le Seigneur ne va pas vous garder si vous faites ça. Voilà pourquoi nous aimons les proverbes, hein, parce que ça nous va dans les jambes. Ça touche tous nos membres. Vous avez vu, on a vu les yeux, on a vu les oreilles, on a vu les mains, on a vu les bras, on a vu les jambes, hein, le cœur. Eh bien, la parole est une parole qui nous aide. Alors, tes yeux auront des visions, ton esprit des paroles et tes paroles deviendront confus. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire, puis tu diras, j'ai dû être blessé et battu sans avoir mal et sans m'en rendre compte, pourvu que je me réveille bientôt pour redemander à boire. Ça, c'est assez clair. Hein. Voilà, une fois, je me suis permis de vous lire le français courant pour que vous ayez une idée. Alors, ce n'est pas de réclame pour les Bibles spécialement, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il est quelquefois utile d'avoir une autre version qui vous compare, qui vous demande au Seigneur qu'il vous donne de toujours mieux comprendre. Quel nom donneriez-vous? Comment? Le défenseur puissant, hein? Darby dit... Leur rédempteur est fort. Celui qui les rachète. Hein. Ou alors, comme vous l'avez, leur vengeur, mais ça montre moins le Seigneur. Il est le défenseur de la veuve. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous enseigner et de nous faire rejoindre notre vie quotidienne par ta parole. Nous désirons une fois de plus qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que tu nous la rappelles dans la vie pratique et que tu nous gardes de tous les excès et que tu nous donnes toujours la maîtrise de nous-mêmes, de garder le bon sens, de veiller sans cesse, même quand nous sommes invités chez des amis, et que nous puissions t'honorer et te glorifier, car tes yeux sont sur nous, et nous savons aussi que le monde nous regarde, que le monde nous observe. Donne-nous donc de nous en souvenir, afin que nous ne fassions pas n'importe quoi, que nous ne disions pas n'importe quoi, mais que nous ayons des paroles qui t'honore et qui te glorifie, et des gestes qui montrent que nous t'appartenons. En Jésus. Amen.